c'est l'été, le soleil brille, parfois un peu trop, mais il n'était pas question pour nous d'arrêter ce podcast pendant cette période estivale. Alors pour continuer à vous accompagner pendant les vacances, nous allons explorer quelques package nuggets que vous pourriez utiliser dans vos développements. Des épisodes courts, histoire de ne les écouter le temps d'ouvrir son parasol. Alors plus que jamais, montez le son et rendez-vous à la première vague. Pour continuer cette exploration des package nuggets pendant ces mois d'été, je reçois aujourd'hui Clément Sagnier. Bonjour.
Bonjour.
Alors tu es freelance, tu as une société qui s'appelle Digital Craft, tu as écrit des articles dans Programmé. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre?
Effectivement, après plus de 10 ans d'expérience, je me suis posé la question récemment de monter ma propre société et j'ai sauté le pas au mois d'avril. L'objectif, c'est de mettre à disposition mon savoir-faire et mon expertise, surtout autour des technos Microsoft que je pratique depuis plus de 10 ans, et tout ce qui va être .NET, Azure et forcément Blazor quand on fait du .NET.
D'accord. Et t'es basé où t'es
Alors moi, je suis basé à côté de Rouen.
Ouais.
Et donc, j'ai pour l'instant des missions plutôt full remote.
D'accord. Okay. Bon, t'es pas trop loin de Paris non plus.
Non. C'est après la ligne Paris Rouen, c'est pas forcément la meilleure, mais c'est une petite heure et demie quoi.
D'accord. Ok. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de deux package nuggets et qui ne sont pas des petits package nuggets, parce que je crois qu'il y en a un, il a 50 millions de téléchargements et l'autre, il en a plus de 230, je crois. Et c'est très orienté test unitaire. Alors il y en avait un, on en avait parlé quoi, sur l'épisode qu'on avait fait sur les tests unitaires qui est Fluent Assertion, mais on va revenir dessus. Le premier dont tu voulais nous parler, il s'appelle Bogus. Il n'a rien à voir avec le jeu.
C'est ça. donc Bogus, en fait, c'est une bibliothèque .NET qui fait partie des packages pour générer des fausses données. Donc soit ce qu'on peut appeler des données mock ou fake sur des objets. Et alors effectivement, on l'utilise souvent sur des tests. Alors pourquoi j'en suis venu à Bogus? C'est forcément quand j'ai commencé à faire du TDD, j'ai commencé à me dire mais mes tests, ils sont pas très pas très robustes parce que j'ai souvent les mêmes choses. Des 1, 2, 3, 4, des ID 42, des emails test@test.fr, des ouais. Villes Paris et ce genre de choses. Et je me suis dit, ça serait quand même intéressant d'avoir un package, d'avoir des données qui soient peut-être plus variables et qui ne soient pas forcément des constantes. Et j'avais commencé autour d'un package qui s'appelait Autofixture. Mais la problématique d'Autofixture, c'est que ça te génère des noms assez aléatoires, des choses un peu comme get temp tempass par exemple, qui te permet d'avoir un nom de dossier avec une suite de lettres. Et ça me plaisait pas trop parce que je me disais que c'était pas proche de ce qu'on pouvait avoir en prod. Et j'ai découvert Bogus et c'est vraiment là la force de Bogus, c'est de pouvoir d'avoir des vraies données comme on pourrait en avoir en prod. Donc ça veut dire qu'on va créer son objet on va initier l'objet avec Bogus et on va pouvoir lui donner des règles et ces règles ça peut être pour ce champ name par exemple donne-moi un nom. Et lui Bogus en fait il s'appuie sur des dictionnaires internes et par exemple il va pouvoir sortir tu veux un nom je vais te donner le nom le prénom Richard et puis le nom Clark par exemple. Ça va être vraiment des vraies données. Et ça, en fait, on a vraiment beaucoup de types qui va pouvoir générer. Ça pourrait être des adresses. On veut une adresse en France, par exemple. Et du coup, il va pouvoir générer une adresse à Paris, à Marseille. Des données qui semblent être proches de ce qu'on pourrait avoir en prod. Des codes postaux, ce genre de choses. Des numéros de téléphone. On peut générer des numéros de téléphone, des adresses e-mail. Des vraies adresses e-mail.
Et alors, c'est ça qui est... Comment ça se passe pour, par exemple, pour la génération d'un numéro de téléphone? Y a une règle en interne dans Bogus ou tu peux lui donner des règles?
Alors, la première chose que tu peux faire quand tu initialises en fait le faker en fait de Bogus, c'est que tu vas lui donner une locale et c'est à partir de ça en fait qu'il va se baser pour générer ses numéros de téléphone.
D'accord.
Que si demain tu veux des numéros de téléphone en France, bah tu lui dis que tu veux la locale FR et lui en fait il va se débrouiller pour générer des numéros de téléphone.
D'accord.
Et si demain tu veux les États-Unis ou d'autres, bah, en fait tu choisis la locale. Les locales, il y en a énormément. Je crois qu'il y a pratiquement tous les pays du monde, donc ça te permet de gérer. Même chose au niveau des. Alors, ce qui est fort, c'est que même chose au niveau des noms et tout ça. En fait, tout est basé sur la locale et du coup, tu vas avoir des noms plutôt à connotation française. Si tu choisis la France, c'est plutôt américaine. Si tu choisis les Américains, la partie US. Et les adresses, même chose en fait. Si c'est France, il va choisir une adresse française.
Oui, et puis je vois là dans les exemples qu'il donne, c'est vrai qu'il y a un exemple qui est assez bien foutu quand même. C'est que tu as un user qui a donc un first name et un last name et un email, et tu peux lui donner une règle sur cet email en disant que utilise le first name et le last name. Et donc, du coup, si la personne s'appelle Richard Clark, il va te sortir un richard36@gmail.com, par exemple.
C'est ça. Et c'est ça qui est vraiment puissant, c'est que du coup, quand tu fais tes tests, alors c'est vrai que tu ne le vois pas forcément, mais dès que ton test va être en échec, et ben en fait, tu auras des vraies informations sur ton message d'échec, en fait. Non, effectivement, Richard Clark, en fait, il existe déjà ou ce genre de choses. Et c'est quand même beaucoup plus robuste de s'appuyer sur ce genre de choses. Alors après, on parle effectivement des tests, mais en fait, pas que. Moi, je ne l'ai pas forcément utilisé que pour les tests. Ça veut dire que quand je commence un nouveau projet, par exemple, que je commence à faire des tableaux pour avoir des noms d'utilisateurs ou ce genre de choses, en fait, je ne m'embête pas à remplir une liste. Je vais chercher Bogus, je lui dis donne-moi 10, 100, 1000 utilisateurs. Et puis comme ça m'affiche mon tableau et j'ai des vraies données dans le tableau et pas des choses qui
veulent dire n'importe quoi. Ouais.
Voilà, qui veulent dire n'importe quoi. Et quand on va faire une présentation client, c'est toujours plus simple pour faire vite fait un petit POC sur une page, de se dire le client va pouvoir voir avec des vraies données, des vrais noms. Et ça m'est déjà aussi arrivé de l'utiliser pour générer une base de données. C'est-à-dire que j'avais besoin, pour un projet, j'avais des problèmes de performance. Et nous, notre base de données, elle n'avait pas assez d'entrées. J'en ai créé 100 000, 1 million d'entrées avec Bogus en me disant je vais générer vraiment toute une liste de tables avec des vraies relations et ce genre de choses. Et du coup, ça nous permettait de l'utiliser dans l'application pour faire nos tests. Et en même temps, moi, ça m'a permis de voir les problèmes qu'on peut avoir. Donc voilà, au-delà de ce côté, c'est vrai que c'est utilisé, c'est très utile pour les tests. Je pense que ça peut.
Oui, pour faire.
Pour faire d'autres choses. Puis après, des champs, il y en a. Il y a aussi, ça peut être intéressant aussi pour les sites. On a toute la partie paragraphe lorem ipsum. En fait, on peut choisir un mot, on peut choisir une phrase, on peut choisir un paragraphe avec le nombre de lignes ou ce genre de choses. C'est vrai que ça, du coup,
Et on n'a pas besoin de passer par GPT-4 pour charger ce genre de choses.
C'est ça.
OK. Bon, donc ça, c'est pour Bogus. Donc, on mettra les liens pour ceux qui sont intéressés du package Nugget et du site explicatif qui est sur GitHub.
Ouais, tout à fait.
Le deuxième, c'est un gros morceau puisqu'il a 265,6 millions de téléchargements. il s'appelle Fluent Assertion.
C'est ça. Effectivement, c'est un package qui est connu. Mais moi, de par mon expérience, finalement, pas tant que ça dans les entreprises où j'ai été. Souvent, c'est moi qui l'ai apporté. C'est un package que j'adore particulièrement parce que son objectif, c'est de rendre lisible toute la partie assertion et un test unitaire. Et donc là, on rentre vraiment que dans la partie pure test. Hein.
Oui.
On va pouvoir l'utiliser avec n'importe quel environnement de test unitaire, que ce soit MS Test, XUnit ou NUnit. Moi, je l'ai beaucoup utilisé dans XUnit, mais là, dans la mission que je suis, c'est du NUnit. Donc, du coup, j'ai pu l'utiliser aussi. Et c'est vrai que voilà, et l'objectif, bah, c'est de rendre la partie assertion qui est parfois un peu... pas forcément non lisible, mais en tout cas voilà, d'avoir un rendu beaucoup plus lisible avec un objet point should pour dire qu'il doit être de cette manière point be quelque chose, donc ça peut être be si on veut que on veut un int qui renvoie toujours supérieur à 1 par exemple, et ben ça peut être toujours be greater than 1 par exemple, pour que on puisse vraiment avoir une lecture. Finalement, c'est ça ce qui est important, c'est d'avoir la lecture de ce que doit être l'assertion.
Oui, donc, par exemple, si on a une méthode qui doit retourner, je sais pas, un entier par exemple, au lieu de faire un assert point r equal 5, le truc, on met la valeur point should point be entre parenthèses la valeur.
Ouais.
C'est plus naturel au niveau de la lecture, c'est vrai.
Bah c'est ça, et c'est vrai que c'est, et même à construire en fait, parce qu'on des assertions en fait, on en a énormément hein, sur Fluent Assertion, mais et du coup on peut dire bah ça commence par start with, ça finit par end with, ça doit contenir contain, ça doit je veux créer un numéro de commande par exemple, et le numéro de commande quand je le crée il doit avoir 9 caractères. Mm-hmm. Voilà, an have length. Mm-hmm. Voilà. C'est super agréable parce que du coup on n'a pas besoin de se poser la question sur l'assertion, c'est naturel en fait. Mm-hmm. Si on veut que ce soit non nul, not be nul par exemple, tout simplement.
Ouais. Et le principe, c'est que ça rajoute des méthodes d'extension sur les types, j'allais dire, communs du framework. Mais après, on peut créer soi-même ses propres extensions sur ses propres types. Quoi.
C'est ça. Si on crée des value objects, tout ce genre de choses, et qu'on veut une assertion particulière, et bah, du coup, on peut créer. C'est ça qui fait toute la puissance. Alors, c'est vrai que moi, j'avoue, je ne l'ai pas forcément utilisé beaucoup de fois, cette partie extension, parce que j'ai toujours trouvé ce que j'avais besoin dans l'application de base. On peut aussi faire des scopes, parce qu'il y a toujours la grande question de est-ce que je fais qu'une assertion par test ou est-ce que j'en fais plusieurs. Et ça, il y a deux écoles. Le débat. Bon, bah, avec Fluent Assertion, on ne se pose pas la question, on peut faire un scope et du coup, ça fait une assertion, mais il y en a plusieurs à l'intérieur où on va dire je reçois un objet, je vais vérifier que l'ID est bon, que le numéro de commande aussi dans le même par même exemple truc. Et c'est ça qui peut être assez fort. Et autre chose aussi, on peut comparer deux objets. Mm-hmm. et faire des équivalences. Alors on peut comparer deux objets en termes de référence.
Ouais,
et on peut aussi faire du be equivalent to en disant j'ai mon objet je lui dis que je veux cet objet en sortie, un expected object avec tel ID, avec tel nom, telle quantité par exemple. Mm-hmm. Et quand je reçois l'objet de mon test, je peux faire un be equivalent to et en fait il va comparer à l'intérieur les propriétés pour voir si elles sont équivalentes. Mm-hmm. Et ce qui est encore plus fort, c'est que on peut aussi lui dire dans cette assertion je veux bien que tu me compares ces deux objets, mais tu peux exclure aussi telle ou telle propriété parce que je sais que ces propriétés en fait elles vont changer, c'est des propriétés aléatoires, c'est des propriétés que j'ai pas envie de tester parce que c'est pas mon test du moment. Et du coup ça permet de construire vraiment une assertion qui est plutôt robuste en fait par rapport à ce qu'on veut faire. Et ça c'est plutôt très intéressant.
Ok, donc ça c'était Fluent Assertion. Donc pareil, hein, on mettra les liens sur le package Nugget et puis sur le site. Là, il y a un site à part entière. Hein.
C'est ouais, pas, il y a c'est pas vraiment la doc, elle est vraiment. Ouais.
Et grosse quoi.
Ouais, non, bah, faut. Mais c'est assez simple d'utilisation de base. Après, vraiment quand on va vouloir faire des trucs un peu plus élaborés, mais de base, il y a pas forcément grand chose à connaître à part. C'est vraiment point chaud, et puis après on se laisse guider par l'IntelliSense.
Juste une dernière petite question. Les deux packages, ils sont compatibles .NET Framework, .NET Core, etc. Enfin, il y a tous les scopes.
Oui, tout à fait, oui. Oui, oui.
D'accord.
Il n'y a pas de contre-indication à l'utiliser dans la partie Framework ou la partie .NET, les dernières versions de .NET, .NET Core.
Ok. Bon bah super, merci beaucoup.
Mais de rien.
Tu pars en vacances ou t'es déjà parti?
Non, je reviens. Je suis un juilletiste.
D'accord, t'es un juilletiste. Ouais. Bon, ça s'est bien passé.
Oui, bah non, on a eu du beau temps, donc du coup.
Et bah c'est fini, voilà. Maintenant,
c'est ça, c'est ça.
Ok, merci. Et bah à la prochaine.
Ouais. Allez, à la prochaine. Ciao.